Donc d'abord, merci de m'avoir donné l'occasion de présenter ce travail. Alors en particulier, j'ai envie de dire merci de faire une journée d'études sur les classes sociales et en particulier sur la classe populaire, parce que dans la sociologie, en particulier un certain nombre d'auteurs anglo-saxons, on voit quand même que la notion de classe sociale a pris un peu moins de place autour de l'idée qu'il y a une moyennisation de la société. Et on voit aussi plutôt, et on le voit aussi beaucoup sur les financements, en fait, qu'il y a une montée de... Enfin, on incite plus à travailler sur d'autres segmentations qui vont être jugées plus discriminantes. Alors, non pas qu'elles n'aient pas de sens, mais parfois, en dépit, enfin, au dépens plutôt, de la dimension classe sociale, qui reste d'autant plus juste que c'est une dimension avant tout relationnelle. Donc, il y aura toujours des dominants et des dominés. Et à partir du moment où on considère que la classe populaire est du côté des dominés, ça laisse une large marge de manœuvre en fait pour l'étudier. Et en particulier, moi, ce qui m'a intéressé, ce que je vais essayer de présenter ici, c'est que les travaux récents sur les classes populaires, me semble-t-il, mettaient beaucoup l'accent justement sur la segmentation à l'intérieur même des classes populaires. Et justement, moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous parler donc en particulier des conducteurs routiers qui ont longtemps été considérés comme la noblesse ouvrière, ou alors qui se sont considérés, en tout cas, qui étaient considérés comme en haut de la frange des classes populaires. Alors rapidement sur la méthodo, c'est un travail un peu ancien, alors j'ai repris mes données, mais malgré tout ça date de ma thèse que j'ai soutenue en 2009, que j'ai fait en chiffres. Donc j'ai été salariée dans l'entreprise dans laquelle j'ai fait mes observations et mon travail qui était essentiellement qualitatif, je ne rentre pas dans le détail, j'ai fait une centaine d'entretiens, et qui portait au départ sur les relations intergénérationnelles au travail, qui m'a amené à rencontrer en fait les différents niveaux et différents métiers de l'organisation, donc qui était une grande entreprise de transport routier de marchandises. Je vais aborder la question, enfin ma présentation en trois temps, parce que j'ai été bien formée dans un milieu universitaire, on m'a dit qu'il fallait faire des plans en trois parties. Je vais d'abord vous parler de qu'est-ce qui fait cette noblesse ouvrière, en quoi les ouvriers sont considérés comme ou se considèrent comme la noblesse ouvrière. Ensuite, je vais plutôt parler du désenchantement du métier et en quoi ce désenchantement de métier va de pair avec un réinvestissement sur une logique qui soit moins une logique de métier, mais plutôt une logique organisationnelle. Donc c'est d'autant plus facile que je vous parle d'une population là dans une monographie, donc qui est dans une grande entreprise. Et puis enfin, je vais aborder une question que je présente pour la première fois, qui était présente dans ma thèse mais que j'ai jamais eu l'occasion de présenter, autour justement du renouvellement du métier et de la féminisation. Alors je suis très preneuse de vos critiques et de vos réactions, puisque je travaille sur un tout petit échantillon, puisqu'il n'y a pas beaucoup de conductrices routières. Vous voyez comme quoi déjà j'hésite, je ne sais pas comment les appeler. Alors sur la noblesse ouvrière, la première caractéristique, c'est que on est sur un groupe professionnel qui a évolué d'une forme de corporatisme à un système par affinité, mais en tout cas qui a une forme de reconnaissance en tant que groupe professionnel. Au départ, les conducteurs routiers sont certes des salariés, mais pendant longtemps se sont plutôt pensés sur le mode de l'artisan, comme un peu des travailleurs indépendants de la route, y compris quand ils étaient salariés, donc très identifiés à leur employeur, dans une logique aussi beaucoup de partage des risques. Donc ils assumaient pas mal de fraudes en accord avec l'employeur pour réaliser leur travail. Donc ça surtout jusqu'à la fin des années 80. Et pendant longtemps, ils ont plutôt eu des revendications qui appuyaient les entreprises de transport routier contre l'État. Donc c'était plutôt les employeurs et leurs salariés dans leurs revendications contre l'État qui régulaient les différents modes en fait de transport entre le rail, la route, etc. Et puis au fur et à mesure du temps, la profession va gagner en autonomie. Alors on le voit dès les années 30, hein, parce que vous savez, la création du journal Les Routiers, puis ensuite du label, que vous avez déjà peut-être remarqué sur les restaurants Les Routiers, ça date des années 30. Mais il y a déjà des indices de l'existence d'une communauté. Mais cette communauté, elle hérite de cet aspect un petit peu ambivalent entre l'aspect indépendant hein, que souligne la plupart des auteurs qui travaillent sur les conducteurs routiers des relations plutôt affinitaires, plutôt que communautaires, avec une sociabilité qui est quand même assez proche des sociabilités qui ont été étudiées donc dans les classes populaires, celle de la sociabilité populaire masculine, des copains qui se retrouvent au bistrot, ici peut-être pas en fin de semaine, mais plutôt donc dans les restaurants routiers. Donc cette organisation, dans les années 90, elle va devenir davantage indépendante de son employeur, notamment va voir les premières revendications en faveur des meilleures conditions de travail et la mobilisation récente des routiers lors de des différentes manifestations contre la loi travail en fait est une illustration récente du fait d'une constitution quand même d'une identité de conducteur routier indépendant de son employeur. Alors en parallèle en fait avec cette reconnaissance du groupe professionnel, c'est aussi un groupe qui au fur et à mesure va participer avec l'État, enfin aidé ou accompagné par l'État, à la fermeture de son groupe professionnel, puisque depuis le contrat de progrès en 94, il y a une formation obligatoire pour devenir conducteur routier, alors qui n'est pas si évidente à obtenir, alors qu'avant beaucoup de conducteurs routiers en fait passer les permis poids lourds au moment du service militaire. Alors la fonction de conducteur, même si elle se ferme, elle n'en reste pas moins très hiérarchisée en interne. Cette segmentation en elle-même, le fait que le métier soit très segmenté, c'est un indice en fait justement du prestige professionnel, puisque plus un métier est modeste, plus c'est compliqué de segmenter, plus un métier gagne en prestige, plus on peut répartir un petit peu le prestige. Cette segmentation, elle est le fruit d'une propre régulation, en tout cas dans l'entreprise que j'ai étudiée, où les conducteurs routiers eux-mêmes avaient fait reconnaître des formes de classification interne qui étaient différentes de la classification de la convention collective, où la classification des différentes catégories de conducteurs routiers était liée en fait à la longue distance. Non pas que le fait de conduire en tant que tel était une compétence reconnue, mais que la longue distance aller de pair avec le fait d'être confronté à ce qu'ils appellent la culture de l'urgence, donc avec de nombreux aléas, et elle s'opposait en fait implicitement à la manutention. Donc plus les conducteurs avaient de la manutention, moins ils étaient reconnus et valorisés dans l'organisation, plus ils faisaient de la longue distance, donc plus ils étaient potentiellement confrontés à des aléas, et généralement ils touchaient moins les colis, ils avaient moins à faire de la manutention, plus leur travail était reconnu et valorisé. Alors c'est vrai aussi financièrement, etc. Alors il y a d'autres auteurs ont travaillé sur d'autres lignes de partage, notamment entre les PME et les grands groupes, dont je ne pourrais pas vous parler puisque moi j'ai travaillé uniquement sur un grand groupe de transport. Alors la noblesse de la profession, elle tient aussi au fait que c'est un métier qui est caractérisé par une grande autonomie. Alors cette autonomie, elle est gagnée parce que le métier de conducteur routier, c'est un métier en fait d'une course contre le temps, mais aussi une gestion pendant un certain temps assez autonome des lieux d'arrêt, donc une gestion de l'espace. Elle est liée aussi à la responsabilité, hein, celle d'un outil de travail, du camion, et puis de son chargement. Elle est liée aussi à sa rémunération. Et pendant longtemps, les conducteurs, en fait, avaient des rémunérations assez importantes, soit parce qu'elles étaient défiscalisées, ils touchaient des frais de route. Alors, en plus, plus vous allez loin, plus vous étiez grand routier, plus vous aviez de frais de route importants. Soit parce qu'elle était souterraine, et il y a beaucoup encore beaucoup de récits dans les années 80-90 qui parlent des différents trafics de marchandises récupérées, dont bénéficiaient les conducteurs et qui leur permettaient d'avoir des niveaux de rémunération assez importants. Alors cette reconnaissance, cette importance de la conduite, elle se retrouve dans l'entreprise que j'ai étudiée, où par exemple, ce qu'on affiche dans les agences, c'est plutôt des photos de camions que des photos d'entrepôts, alors qu'on fait tout aussi bien de la logistique et de la manutention. Donc les camions sont plus considérés comme un indicateur de ce qui est le cœur du métier de l'organisation. Je passe maintenant à ce que je vous ai déjà annoncé, c'est que cette image de la noblesse du conducteur routier, elle a quand même largement été mise à mal par l'évolution du métier. Donc, en fait, on va avoir des conducteurs qui sont de plus en plus désenchantés par rapport à un métier qui a largement évolué. Et ce qui va donner, du coup, un poids supplémentaire à l'identification, à la logique organisationnelle plutôt qu'à la logique professionnelle. Alors, je vous passe les différents aménagements, mais finalement, cette loi du contrat de progrès en 90, c'est le début d'une régulation en fait des métiers du transport. Un métier qui, pendant longtemps, je vous l'ai dit, il était possible parce qu'il y avait des arrangements à la marge, que les conducteurs trichaient, alors soit parce qu'on leur demandait de le faire, soit parce qu'ils étaient d'accord. Un conducteur que j'ai rencontré parlait de carnet menteur, qui permettait de ne pas respecter les temps de conduite, les moments d'arrêt, etc., ni de respecter en fait les limites de vitesse. Carnet menteur qui n'est plus possible à partir des années 90, où ils ont un chronotachygraphe numérique. Alors il y a encore beaucoup de fraude, mais qui est beaucoup plus compliquée. Et de plus en plus, les employeurs, du fait des nouvelles législations, vont vouloir rentabiliser, contrôler le temps, et donc laisser moins d'autonomie aux conducteurs routiers. Donc, va de pair avec cette idée de rentabilisation, la fin de l'appropriation de l'outil de travail. Donc, c'est plus un homme, un camion. Ils n'ont plus un camion à titrer. La fin, alors, de la pratique en double équipage qui s'était déjà largement amenuisée, parce que vous imaginez que c'est pas très rentable, mais qui, au fur et à mesure des années 80-90, va disparaître. Et puis, l'introduction des nouvelles technologies, informatique embarquée, GPS, va aussi participer à l'encadrement des conducteurs. Dans cette entreprise, la DRH, donc une des DRH que j'ai rencontrées, annonce effectivement qu'on encadre largement les conducteurs. Elle dit même qu'on les marque à la culotte pour indiquer à quel point aujourd'hui ils n'ont plus cette liberté qu'ils pouvaient avoir avant. Donc le conducteur a de plus en plus l'impression qu'en fait, lui, il doit intégrer une tournée qui a été standardisée en amont, dont il n'est qu'un maillon de la chaîne parmi d'autres. En plus, je vous ai dit, les grands routiers, donc ceux qui faisaient le plus de routes, c'était les plus valorisés. Or, le métier est en train de disparaître, en France en tout cas, et en tout cas c'était le cas dans cette entreprise-là. La déréglementation de l'activité, notamment avec l'ouverture des frontières au niveau européen, fait que, grosso modo, le pavillon français est de moins en moins rentable. Et donc, on se replie plutôt sur des activités sur le territoire ou de l'affrètement. Et là, on voit notamment dans l'entreprise que j'ai étudiée, se développer l'affrètement auprès des pays de l'Est. Et les conducteurs voient bien que chaque départ en congé de fin d'activité, qui sont des départs en pré-retraite, se solde généralement par une contrepartie, mais qui n'est pas un recrutement conducteur, qui est plutôt un recrutement sur une autre fonction, notamment sur des fonctions logistiques. Alors, ils ont, eux, ils perçoivent la disparition de ce métier de manière un petit peu floue, puisqu'ils sont dans une grande entreprise, ils ont assez peu d'inquiétudes sur leur emploi. En revanche, il y a tout un halo, tout un tas d'indices qui leur fait prendre conscience de la possible disparition, peut-être pas du métier de conducteur, mais du métier de tel conducteur tel qu'ils l'ont exercé jusqu'à présent. Alors, ça se traduit généralement par une interprétation sur le nombre de colis ou de palettes qui montre à quel point les clients sont fidèles ou sont volages. Ça se traduit également par le nombre de camions, le parc auquel ils sont assez attentifs, qui montre effectivement la rentabilisation de l'outil de travail qui passe par la diminution du nombre de camions qu'on va faire tourner plus souvent. Et qu'ils identifient comme le développement d'une logique commerciale ou gestionnaire, plutôt d'une logique gestionnaire ou de rentabilité financière, pardon, aux dépens d'une logique de commerce ou d'une logique de service qui pour eux était au cœur du métier dans la relation avec le client. En plus, ça leur permet aussi d'identifier le fait que le groupe, effectivement, au fur et à mesure, le groupe dans lequel ils travaillent, se ressentent sur les activités logistiques. Et puis, ils l'identifient tout simplement auprès des hommes qui la font, puisqu'ils se rendent compte de plus en plus qu'il y a de moins en moins d'embauches en CDI, que donc l'embauche en CDD ou en intérim se développe et qu'on embauche plus de manutentionnaires ou de préparateurs de commandes que de conducteurs routiers. Donc c'est plus sous ce prisme collectif en fait de la pérennité de leur activité de transport ou du métier tel qu'ils l'ont vécu qu'ils le perçoivent que sur la pérennité en soi de leur emploi qui n'est pas remise en cause. Donc un certain nombre de conducteurs vont avoir une stratégie que j'ai appelée rentrer dans le rang organisationnel. C'est pas la seule, mais c'est une des façons qu'ils ont de tenir, pour ceux qui ne partent pas, de réenchanter le métier, en tout cas de tenir dans l'organisation. Alors ils sont... c'est les changements dont je vous ai parlé, bien sûr, se déroulent sur du long terme, mais ils ont commencé dans les années 90, mais ils sont très perceptibles dans les années 2000. Ils sont conscients donc de la perte de prestige de leur activité, ne serait-ce que parce qu'ils se rendent compte qu'il est de plus en plus difficile de recruter. Il y a de moins en moins de jeunes qui vont être attirés par ce métier. Et il voit bien que la segmentation accrue du marché interne du travail à l'intérieur de l'entreprise, notamment entre cadres et non-cadres, avec le développement des diplômes dans le transport, des formations spécifiques, ne leur permet pas d'espérer, comme c'était encore possible à une époque, de passer à l'exploitation et donc d'avoir une mobilité professionnelle ascendante. Donc rentrer dans le rang organisationnel, ça veut dire quoi dans ces conditions? Eh bien, ça veut dire intégrer la logique gestionnaire. Et donc un certain nombre de conducteurs vont soit essayer de devenir formateurs, ce qui leur permet de sortir du métier, tout en gardant un lien avec la mécanique, avec la route et avec la conduite, mais qui les oblige à s'intégrer effectivement dans les logiques de gestion de l'organisation. Ou d'autres vont essayer d'identifier ce qui leur semble être des indices de qu'est-ce que c'est qu'être un bon conducteur dans la logique gestionnaire, donc flexible, ponctuel. Je vous donne des caractéristiques qu'ils ont identifiées dans ce brouillard organisationnel dans lequel ils ont assez peu de visibilité. Alors j'en viens à mon troisième point. Un certain nombre vont quand même essayer de faire perdurer, donc vont continuer à s'identifier dans la logique de métier, et donc vont essayer de faire perdurer le métier ou de le renouveler. C'est dans ce cadre, j'ai envie de dire, qu'intervient la féminisation. Alors je prévois tout de suite une salve de questions et de critiques. Je vais travailler sur un tout petit échantillon, puisque dans l'entreprise qui faisait quand même 10 000 salariés, 13 000 salariés, dans les 13 000 salariés, il y avait un tiers de conducteurs. Dans cette entreprise, il y avait 4 femmes conducteurs routiers, donc ça limitait un petit peu mon échantillon. Sur les 4 femmes, il y en avait une en congé maternité, une en congé parental. Donc j'ai vu 100% de mon échantillon disponible, c'est-à-dire que je n'ai vu que 2 femmes. Donc je vais essayer quand même de tirer des hypothèses à partir de ces éléments-là. Alors premier point, je voulais revenir sur, avant de parler de cette féminisation, sur de toute façon la place des femmes dans cette organisation, donc sur la culture virile, qui est à la fois la culture virile du métier et la culture virile qui est largement renforcée par l'organisation. Alors elle se traduit par le rapport au corps, qui valorise la force, la maladie est vue comme une entrave à l'activité physique et professionnelle, et donc qui est assez classique dans le rapport au corps populaire, et donc nier. Au contraire, on va mettre en avant plutôt la meilleure résistance à la douleur. Donc la plupart des conducteurs routiers, par exemple, ne déclarent pas de maladie professionnelle, leur maladie professionnelle ou les différents problèmes physiques qu'ils peuvent rencontrer. Elle se caractérise aussi par une forte sexuation des rapports sociaux, donc notamment à travers des plaisanteries que rapportent les femmes conducteurs, que moi j'ai vécu en tant qu'enquêtrice. Par exemple, un conducteur à qui je faisais un entretien en fin de soirée, le directeur arrive dans la salle où on faisait l'entretien et il lui dit tout de suite « Bonjour monsieur le directeur, attendez, je remets mon pantalon ». Voilà, pour vous donner un peu l'image des choses. Donc là, qui ramène plutôt la femme, donc sur plutôt côté femme-objet. Et en même temps, l'autre aspect, un attachement, une certaine idée de la respectabilité, très en lien avec l'ancrage rural et l'attachement au statut. Donc autant on peut faire des blagues, de ce type de plaisanterie, autant on ne va pas supporter, par exemple, que le directeur de l'agence, un petit peu aviné lors d'une soirée, drague des femmes de conducteurs. Ça sera très mal vu parce qu'on considérera qu'il ne respecte pas, il ne se conduit pas dignement. Et ce qui renvoie aussi à une certaine image de respectabilité qui est plutôt du côté de la femme mère. Et cette logique un peu qui est au cœur des représentations dans le métier, on la retrouve également au cœur de l'organisation. Donc elle est renforcée par une organisation qui est paternaliste, donc avec une discrimination assumée, donc largement dit et revendiquée, enfin je ne sais pas si elle est revendiquée, mais en tout cas elle a été dite assez ouvertement. Des postes de direction donc qui sont jugés trop durs pour les femmes. Les postes ouvriers sont aussi jugés trop durs pour les femmes, en raison plutôt de leur faiblesse mentale, puisqu'on pense que, par exemple, les femmes conductrices, forcément, elles vont amener leurs conjoints avec eux dans les tournées, ça, c'est pas acceptable, comme si les hommes ne faisaient pas la même chose. Également, il y a aussi une pensée voilà, que les femmes sont subordonnées, au sens dans le couple, à leur mari, et une forme de corporatisme masculin qui est présentée en tout cas comme une forme de justification du non-recrutement de femmes, et en particulier les femmes qui aspireraient à l'égalité sont souvent renvoyées à la femme objet, ne sont pas considérées comme des femmes respectables. Je vous donne une autre citation, ça me fait plaisir. Je donne l'exemple, je dis, mais est-ce que vous embaucheriez une femme qui a arrêté de travailler pour x ou y raison et qui, à 30 ans, rentre sur le marché du travail pour faire tel ou tel métier. Mon idée n'était pas de tester la variable genre, mon idée était de tester au départ la variable âge. Et on me répond, je pose la question sur des postes d'encadrement. Oui, on la mettrait au standard si elle est jolie. Voilà. Juste avant, on a eu toute une discussion sur l'équilibre en fait, des choix entre hommes et femmes, et la même personne m'a dit... reconnaît qu'il y a un changement générationnel sur l'équilibre dans les couples. Pour vous donner un petit peu la teneur de ce qu'il m'a dit, moi j'ai toujours fonctionné comme ça, c'est-à-dire moi j'ai toujours pris mes clics et les claques, on me donnait une mobilité, je partais quand on me le demandait. Et puis il y a quelques années, il y a 7 ou 8 ans, je dis c'est plus des mecs, c'est des PD qu'on embauche. Et puis force est de constater qu'ils sont tous comme ça. Donc c'est dans ce contexte-là qu'il me dit que donc une femme, on la mettrait donc sur ce type de poste. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de femmes dans l'organisation. Elles ont une place dans la mesure où elles sont respectables. Donc, elles sont associées à leur rôle maternel. Mais le rôle maternel, ce n'est pas toujours bien vu par les organisations, puisque ça veut dire congé maternité à répétition ou risque de congé parental. Donc, les femmes, elles sont renvoyées à une espèce de norme de maternité contrôlée. Donc pour assumer les fonctions de l'entreprise, il faut être mère, mais pas trop. Et donc la plupart des femmes qui sont cadres sont des femmes qui ont des postes, sont des femmes qui ont soit pas d'enfants, soit peu d'enfants, qui ont souvent écourté leur congé maternité, etc. Et les conductrices, elles, sont soit avant d'avoir une charge de famille, soit une fois que leurs enfants sont grands, y compris sur des postes qui sont des postes de courte distance, qui seraient compatibles, je ne dis pas forcément facilement, mais en tout cas qui seraient compatibles avec, des charges de famille. J'ai presque fini. Que je mets dans le bon ordre. Alors, moi, mon hypothèse, c'est que l'arrivée des femmes conductrices dans cette entreprise, hein, les deux dont je vous parle, elle va de pair avec le mouvement de renouvellement du métier. C'est-à-dire qu'à la fois, c'est un signe du renouvellement du métier, et en même temps, elles participent sans doute à ce renouvellement du métier. Elles sont que deux, vous allez me dire. Mais en tout cas, elles s'engouffrent dans ce renouvellement du métier. En effet, le métier, s'il a évolué, il a quand même évolué parfois. Enfin, ça peut être vu de manière positive par un certain nombre de, notamment par les nouvelles générations, parce que ça permet d'avoir une organisation qui est moins à la terre en termes d'horaire, des délais de prévenance qui étaient un peu trop courts et qui là sont donc plus longs, plus routiniers. Il y a d'autres filières de métiers qui vont se développer, comme ce qu'on appelle les conducteurs de relais, donc qui échangent leurs camions à mi-chemin, des conducteurs de ramasse ou de distribution, donc ce sont des conducteurs plus courtes distances. Ça permet une meilleure conciliation vie privée, vie professionnelle, et une pénibilité physique moindre et des heures payées, des heures intégralement payées. Donc ces aspects-là du métier sont appréciés par un certain nombre de personnes de nouvelle génération, et en l'occurrence, c'est aussi des aspects qui permettent aux femmes, du fait aussi de la moindre pénibilité physique, d'être mieux acceptées dans le métier. Par ailleurs, les conducteurs vont réinvestir sur la compétence relationnelle. Ils vont dire, mais nous, finalement, on a plus de clients, donc on fait plus de relations clients. Donc le côté sens du service, il est revalorisé au travers de ces métiers de distribution ou de ramasse, où on fait moins de routes, mais on voit plus de... Or, là aussi, la présence des femmes est valorisée parce que les clients apprécient cette présence un petit peu insolite des femmes comme conductrices. Au-delà du renouvellement du métier, certaines femmes, et un certain nombre, beaucoup plus d'hommes, parce qu'ils sont beaucoup plus présents, il y en a beaucoup plus, vont aussi participer par des formes de résistance à essayer de faire exister le métier tel qu'il existait avant. Donc, essayer de conserver un semblant de liberté. Donc ils vont essayer d'avoir des arrangements à la marge en fait qui vont leur permettre de contourner le contrôle informatisé des trajets, de gagner du temps ou de gagner de l'autonomie dans la réalisation de leur travail. Ça passe notamment par la transmission de trucs et astuces entre les plus anciens et les plus jeunes, d'essayer de retrouver le contrôle du temps, puisque c'est pas tant le fait de faire des heures qui manque aux conducteurs routiers que l'autonomie qu'ils avaient. Or, les femmes que j'ai rencontrées, elles sont souvent, souvent publiques ou destinatrices de ces secrets qui sont considérés comme jalousement gardés, et elles s'enorgueillissent de pouvoir recueillir elles aussi ces trucs et astuces, puisqu'elles le voient comme un élément de reconnaissance de leur participation au groupe professionnel. En particulier, puisque beaucoup de, notamment un certain nombre de femmes qui font ce choix-là, je ne m'appuie pas là sur mes travaux, mais sur des travaux qui ont été faits par Anne-Catherine Rodriguez, qui a fait sa thèse sur les femmes conductrices, peuvent faire ce choix-là en seconde partie de carrière. Et parfois, c'est le cas d'une de mes enquêtées, c'est une vocation précoce, mais elle a dû attendre un certain temps pour pouvoir la faire. Et donc, elles sont considérées comme arrivant là, comme particulièrement méritantes, et leur accueil dans le métier, une fois un certain nombre d'obstacles passés, se fait d'autant mieux. Alors je terminerai là-dessus, hein, sur ce métier qui se perpétue. La logique organisationnelle qui est choisie par certains conducteurs, de fait, va avoir tendance plutôt à renforcer leur subordination, puisqu'ils sont très dépendants d'une organisation qui, par ailleurs, donne pas tellement d'indices ou de visibilité sur ce qu'ils pourraient devenir. Le renouvellement de l'identité de métier, clairement, va plutôt favoriser, ou en tout cas va permettre la féminisation, comme je vous ai dit, la féminisation par un espèce d'effet de retour, va sans doute permettre la perpétuation d'une certaine identité de métier. Il est sûr que le fait qu'il y ait un maintien de l'existence d'un collectif de travail va participer justement à intégrer les femmes, parce que la plupart des femmes, que ce soit dans ce que j'ai vu ou dans la thèse d'Anne-Catherine Rodriguez, bénéficient d'entraide de leurs collègues, notamment sur des travaux physiquement difficiles. Mais si la féminisation renforce le renouvellement de l'identité de métier, ce qu'on voit quand même apparaître, c'est un risque de retrait Alors notamment face un peu au rouleau compresseur de la logique gestionnaire, hein, de rentabilisation, et notamment cet investissement, cette volonté de résister pour faire perdurer l'identité métier, reste à savoir combien de temps elle va pouvoir tenir. En plus, ce qu'on peut constater, c'est que de toute façon, les femmes, de, là aussi, sur les quelques indices que j'ai pu juger, vont avoir plus de difficultés à progresser et encore moins d'opportunités que les hommes dans ce métier-là.
Il y a Paul.
Je crois que j'étais tombé sur des chiffres de l'ordre de 10 à 15% de femmes dans le métier de conducteur routier aujourd'hui, beaucoup moins que dans le métier de conducteur d'autobus urbain, pour des raisons qu'on peut expliquer très simplement. Donc si j'ai bonne mémoire, l'entreprise dans laquelle vous avez fait la cifre est atypique. Il y a particulièrement peu de femmes aux conductrices routiers ou routières. Et donc il faudrait se poser la question pourquoi, comment. Voilà.
C'était juste en 2006, de ce que j'ai vu, parce qu'en fait, c'est assez compliqué d'avoir des chiffres sur le métier. Il y a des chiffres sur le secteur, mais sur le métier, ce n'est pas très évident. Donc en 2006, il y avait 4000 femmes conducteurs routiers. Alors à savoir, est-ce que c'est lié au fait que c'est du transport routier froid ? Donc est-ce que c'est lié aux spécificités du métier qui fait qu'il y a moins de femmes ? Ce qui est sûr, c'est que l'entreprise en elle-même avait une politique affichée. Mais je suis pas sûre que ce soit exceptionnel qu'elle ait une politique affichée de « on n'embauche pas de femmes ». Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle, elle affichait très clairement sa politique de ne pas embaucher de femmes. Voilà.
Merci. Moi, j'avais juste une petite remarque. C'était pas forcément une question, mais j'ai fait un chiffre dans la même entreprise et j'étudie les masculinités au travail. Donc du coup, là, cette question m'intéresse. Et je sais qu'en 2015, donc moi, j'ai les chiffres à fin 2015, il y avait 27 femmes qui étaient conductrices. Ouais. Il y en avait un peu plus. Cependant, je mettrais un petit bémol sur cette idée de féminisation du métier, parce que si on compare le secteur du transport à celui de la logistique dans cette même entreprise, on remarque que sur les emplois ouvriers, il y a beaucoup plus de femmes en logistique, alors que physiquement, c'est beaucoup plus dur que sur la partie transport. Et donc, du coup, il faut se poser la question de la résistance donc à la féminisation par le prisme, justement, de masculinité hégémonique qui perdure. Et je pense qu'il y a une vraie idée de que, justement, ce métier est en train de changer, et peut-être cette dévalorisation. Et que, du coup... le fait que, déjà, ils ont eu l'idée que le métier se dévalorise, mais qu'en plus, il y a des femmes qui intègrent ce métier. Donc, il y a des travaux qui montrent que féminisation égale dévalorisation de certains métiers. Et donc, du coup, je pense qu'il y a une part de résistance aussi là-dedans, peut-être.
Alors, moi, je posais l'hypothèse inverse, justement. Je m'étais demandé si... Non, mais c'est pour ça que je dis que c'est qu'une hypothèse, parce que vous avez vu, c'est des éléments qui sont assez éparses. Autant sur l'organisation, j'ai pas mal d'éléments, autant sur les conductrices, j'en ai que deux, donc c'est pas évident. Mais je me posais l'hypothèse inverse, dans quelle mesure, effectivement, il n'y avait pas la dévalorisation existait avant et indépendamment de l'existence des femmes, et dans laquelle mesure où la féminisation du métier, alors je ne dirais pas participer à une revalorisation, mais en tout cas, elle arrivait à un moment où le métier se renouvelait, ce qui ne veut pas dire forcément revalorisation. Mais pour moi, ce n'est pas la féminisation qui crée la dévalorisation, ou c'était une hypothèse sur laquelle on peut tout à fait discuter dans la mesure où effectivement ça reste, et c'était tout à fait le cas à l'époque aussi, enfin quand il y avait que ces deux femmes routières, il y avait déjà pas mal de femmes, enfin pas mal, il y avait déjà une proportion plus importante de femmes dans les métiers ouvriers de la logistique.